Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, j'ai comme Godard, Jean-Luc Godard, chapitre 1, les années 60, avec Alain Bergala et Antoine Debecq. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Godard, toujours Godard, tout retranché qu'il soit sur les bords du lac Léman, Godard est partout en cette rentrée. Édition de films restaurés en Blu-ray et DVD, exposition de son dernier chef-d'œuvre, le livre d'images bientôt aux Amandiers de Nanterre. En attendant, une rétrospective intégrale de ses films et de sa complice Anne-Marie Miéville. Ça sera à la Cinémathèque française début 2020. Mais l'œuvre comme l'homme est multiple, du jeune dandy surdoué et dynamiteur des canons de la qualité française à l'ermite de Rolles, en passant par le militant dissous dans le collectif, le vidéaste bricoleur, le JLG aux aphorismes mystérieux et l'historien du cinéma en images. Plan Large inaugure donc aujourd'hui une série qui va se prolonger tout au long de la saison et qui s'ouvre aujourd'hui avec le premier Godard, celui des années 60, décennie des plus prolifiques, où en 15 films enchaînés en 8 ans sans interruption ou presque, parfois simultanément, il va inventer, ou plutôt trouver, dans la pratique même de son art, les formes, les motifs, les obsessions, les couples dialectiques, masculin et féminin, fidélité et trahison, art et argent, ombre et lumière, pour n'en citer que quelques-uns, couples qu'il remettra inlassablement sur le métier. Et dans le même temps, il va saisir comme personne ce qui s'est joué dans cette décennie de mutation de la société française, tout en créant les motifs esthétiques qui imprègnent encore aujourd'hui la représentation que l'on s'en fait. Ces années où, comme l'écrit François Truffaut en 1966, quand il est encore son ami, son complice et qu'il coproduit un de ses films, Godard a pulvérisé le système, a fichu la pagaille dans le cinéma, ainsi que l'a fait Picasso dans la peinture, et comme lui, a tout rendu possible. Pour partager avec nous deux ou trois choses qu'ils savent de lui et de ses films, deux critiques et historiens de cinéma, tous deux anciens rédacteurs en chef des Cahiers du cinéma, Alain Bergala, éditeur dans la même maison de Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard et auteur de l'indispensable Godard au travail les années 60, et Antoine Debecq, son biographe. En fin d'émission, nous passerons comme chaque année un coup de téléphone à Michel Simon, qui de Venise nous dressera le bilan de la très controversée 76e édition de la Mostra. Mais pour l'heure, on reprend son souffle et en voiture.
Buenas noches. Mi amor. S'il croit qu'il va me doubler, celui-là, ou que ça frégate à la con. Patricia, Patricia. Alors, je vais chercher l'argent. Je demande à Patricia oui ou non. Et après... Buenas noches, mi amor. Milano, Genova, Roma. C'est joli la campagne. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite t'a pas l'air mal. La jolie cuisse.
Oui, mais l'autre.
Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches.
début très prime sautier d'About de souffle. C'est évidemment Jean-Paul Belmondo, Michel Poicard, alias Laszlo Kovacs, en route pour Paris, vers sa Patricia de Ginseberg. Michel Poicard qui va bientôt tuer un motard de la gendarmerie, comme on le sait, et se retrouver traqué par toutes les polices. Un scénario prétexte, sans doute, pour un film qu'on voit aujourd'hui comme un manifeste, le porte-étendard de la nouvelle vague, sans doute encore plus que les 400 coups de Truffaut, son compère des Cahiers du cinéma, film sorti un an avant. À cause de son immense succès aussi en France et dans le monde entier, c'est le plus grand succès public de sa carrière. Et pourtant, Alain Bergala, vous écrivez dans votre Godard au travail que ce film, donc qui semble un manifeste, rarement film aura été fabriqué avec autant de doutes profonds, même pas sur sa qualité ou sur ses chances par rapport au public, mais simplement sur le fait même qu'il puisse devenir un film, Alain Bergala.
Sur le fait que ce soit un film. Les gens qui entouraient Godard, la production, etc., on doutait même que ce film était sortable en le voyant. Et c'est les vieux amis des Cahiers qui sont venus à sa rescousse en assurant au producteur que non seulement c'était un film, mais que c'était génial. Je ne suis pas sûr qu'ils le pensaient vraiment, mais en tout cas, ils ont défendu Godard, ils ont défendu ce film.
Il y avait un esprit de corps dans la nouvelle vague. Il faut dire que Godard, on a la peine à se l'imaginer aujourd'hui, mais c'est un inconnu quasi total à l'époque. Ce n'est pas le critique le plus en vue des Cahiers du cinéma. Et il est en train de se rendre compte qu'il y a un train qui est en train de passer devant lui et que peut-être il va le rater, Antoine Debecq.
Oui, absolument. Dans le contexte, Godard tourne ce film pendant l'été 59 et c'est vrai que la nouvelle vague est partie. Le coup de départ, c'est, on peut le dire comme ça, c'est le festival de Cannes 59, donc en mai 59. Et c'est vrai que Truffaut, avec les 400 coups, est en train de lancer le train à toute vitesse. Et Truffaut surtout a l'avantage d'avoir dans sa manche désormais les producteurs, hein, qui sont à la recherche de sentant aussi la bonne affaire, hein, de ce qu'on pourrait appeler le film jeune, le premier film. Et c'est vrai que Godard est obsédé à ce moment-là par l'idée de pas rater le train. Et il multiplie les projets et tout d'un coup il se raccroche à Truffaut, d'autant plus que Truffaut donc a écrit après une conversation visiblement entre les deux jeunes gens dans le métro à parisien, il a écrit cette histoire à bout de souffle, en s'inspirant d'un fait divers de l'époque assez connu. Et Godard, on a une lettre célèbre, hein, où il demande à Truffaut s'il peut pas lui résumer en quelques lignes cette histoire pour pouvoir la présenter à un producteur qui se présente à ce moment-là et qui est Georges de Borga. Et c'est vrai que ça marche, quoi. Voilà. Oui, Godard est très très soucieux de surtout se montrer et de ne pas rater le coche. Alors, ce qui est étonnant avec dans cet état d'esprit-là, c'est que Godard fait quand même absolument ce qu'il veut.
Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il invente tout de suite ce qui sera sa méthode pour la suite, et ça on le voit quand on lit votre livre Godard au travail, Alain Bergala, c'est que le scénario en question, ce sont quelques lignes, c'est pas ce qu'on appellerait plutôt une continuité, même pas dialoguée, c'est assez littéraire, et lui se réserve comme ça des pages quasi blanches dans son scénario où il va pouvoir trouver son cinéma.
C'est aussi très pragmatique, comme toujours. C'est-à-dire que Godard ne se dit pas, quand il commence à bout de souffle, je vais révolutionner le cinéma. Il pense qu'il est en train de faire un petit film de série B français. Et finalement, comme toujours, Godard invente parce qu'il est obligé. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec un montage beaucoup trop long. Et avec sa monteuse, ils ont l'idée de couper un peu au milieu des séquences. Mais c'est
pas un projet. Il invente le jump cut.
Voilà, mais c'est pas un projet. C'est pas comme Alain René. C'est-à-dire il est purement du côté du pragmatique, comme Rossellini d'ailleurs. Parce que ce qu'on vient d'entendre, ça rappelle évidemment le début de Voyage en Italie, c'est-à-dire qui est inscrit dans la tête de Godard de façon indélébile.
Et il invente, pas tout seul, malgré tout, il faut préciser le rôle de beaucoup de personnes qui l'entourent, et notamment de Raoul Coutard, Antoine Debecq, qui
intéresse Godard, parce que c'est avant tout un reporter.
Oui, c'est vrai que Godard a cette rencontre avec Coutard. Coutard n'est pas quelqu'un qui l'a choisi, il lui a imposé justement par la production. Hein. Coutard fait partie d'un réseau, on va dire, qui est à la fois esthétique et même politique, hein, et qui vient sur ce film. Et là encore, comme le disait Alain, c'est-à-dire que Godard invente avec ce qu'il a sous la main. Et ce qu'il a sous la main va évidemment lui servir, c'est-à-dire Coutard amène avec lui tout le côté baroudeur, le côté reportage de guerre, puisque Coutard commence à être connu comme un grand reporter de guerre. Hein. Il a suivi pendant la guerre d'Indochine les armées françaises. Et Godard a l'idée de, en quelque sorte, de filmer à la fois une série B et une histoire d'amour comme un reportage quasiment caméra à l'épaule. Et c'est cette invention permanente à la fois sous la contrainte et cette inventivité hein, qui naît de ces contraintes hein, de ce petit film sans moyens et que Godard met à profit dans la rencontre avec Raoul Coutard qui va dépasser ensuite ce cadre strictement conjoncturel. Ça, c'est un couple, une sorte de cordée hein, créatrice qui se met en place et qui va justement irriguer tous les films de Godard des années 60 et déterminer une véritable révolution esthétique. Mais c'est vrai que cette révolution, elle vient d'une rencontre assez fortuite, en fait, que Godard peut faire avec Coutard. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est effectivement pas quelque chose qui serait prémédité, mais la révolution se fait, mais elle se fait en quelque sorte en s'improvisant tous les jours.
Se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai lu trois jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de panier. Je déteste les corps, on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le
connu la voix d'Anna Karina qui chante au début d'Une femme est une femme dans le cabaret de striptease où elle exerce immense succès pour À bout de souffle. Ça lui ouvre beaucoup de portes. Alors bon, il y aura l'épisode d'un film interdit pendant longtemps, Quel petit soldat. C'est le vrai premier film qu'Anna Karina fait avec Jean-Luc Godard. Mais comme le film est interdit, on la découvre dans Une femme est une femme. On entend, c'était déjà le cas dans l'extrait précédent, mais c'est encore plus frappant ici puisqu'enfin il peut utiliser le son synchrone, ce qui n'était pas le cas dans À bout de souffle, l'utilisation déjà très étrange que pour l'époque et encore aujourd'hui pour des oreilles non exercées que Godard fait du son. Et on l'entend ici, c'est une comédie musicale, mais évidemment une comédie musicale en principe c'est le règne de la post-synchronisation. Lui, il va faire une comédie musicale en son direct, enfin, Alain Bergala.
Dans Une femme est une femme, Godard, d'un seul coup, il accède à la couleur, au scope et au son direct. C'est beaucoup pour un seul homme et un seul film. Ça veut dire que ça sera toute sa vie, ça sera la même chose. Godard est à l'affût de tout ce qui se passe techniquement et il cherche chaque fois les formes qu'il va pouvoir inventer à partir de ces outils-là. Bon, le scope dans Une femme et une femme est une chose absolument magnifique et il fait en plus des choses que normalement on ne fait pas en scope, c'est-à-dire du direct dans la rue. Presque caméra cachée. Or, c'était quand même assez lourd et assez difficile. Il n'est pas tout à fait dans le code, et surtout pas dans le code de la comédie musicale, disons, classique, en studio. Donc, comme toujours, Godard prend... il a dans sa tête des formes qu'il a aimées, dans sa cinéphilie, mais il les retravaille complètement par rapport à lui-même, par rapport à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de comédie musicale, alors qu'il est dans une économie pas très riche et impossible de faire une vraie comédie musicale avec ça, quoi.
Et les comédies musicales et la couleur, c'est évidemment l'invention par Godard tout de suite là. Donc c'est son troisième film de on pourrait dire de ses codes couleurs, en tout cas notamment dans les scènes d'appartement. Il y a quelque chose qui va beaucoup marquer l'époque et qui va même rentrer réellement par la suite des films de Godard dans les appartements de la France des années 60. Ce sont ces murs blancs avec des taches de couleur.
Oui, c'est vrai que il y a une sorte d'esthétique de l'appartement qui est là aussi permise par la collaboration avec Coutard, hein. Notamment Godard adore ces murs blancs avec des reproductions de tableaux, hein. C'est quelque chose qui...
C'est son côté musée imaginaire.
Voilà. Et cette idée qui est très forte chez Godard, c'est de faire sortir le musée du musée. C'est-à-dire, voilà, c'est déjà présent dans À bout de souffle. L'art, c'est traverser le Louvre en courant, comme ils le feront dans Mandapart, et c'est mettre le Louvre sur les murs de l'appartement avec des reproductions toutes simples. Et ça, c'est quelque chose qui va innerver tout le cinéma de Godard et qu'on va retrouver par exemple dans Pierrot le Fou, qui est un film magnifique sur la couleur et sur l'usage comme ça de ces taches de couleur venues de l'art, mais qui sont comme je dirais à la fois démocratisées et en même temps données de manière très intime, puisque c'est ce qui est mis sur les murs, c'est les choix en quelque sorte des personnages. C'est voilà, on est dans un musée, mais qui est un musée à la fois qui n'est pas le grand musée et qui est en même temps un musée intime. Et ça produit une esthétique qui est très forte, effectivement. Alors, on peut penser que ça vient de loin, puisque c'était déjà présent dans les tout premiers courts-métrages de Godard. Il y avait déjà cette idée-là, en noir et blanc. Et tout d'un coup, Godard peut lui donner, effectivement, avec la couleur, une sorte de splendeur. C'est vrai que Godard est vraiment il réinvente, on peut le dire, l'usage de la couleur au cinéma. Mais comme il réinvente tellement de choses à ce moment-là.
Ce qu'il réinvente aussi, mais il n'est pas le seul à l'époque, c'est toute la question de la nouvelle vague, des nouveaux corps. C'est-à-dire ce qui est très troublant quand on regarde Une femme est une femme et qu'on voit Anna Karina déambuler dans la rue dans ses plans volés, comme vous avez dit, avec ses collants rouges, son parapluie de la même couleur et son corsage assorti, c'est qu'elle croise des vieilles personnes, notamment. C'est une femme qui veut avoir un enfant là tout de suite dans les 24 heures et tout ce qu'on voit c'est des vieux. Et il y a une confrontation entre la jeunesse de ces corps qu'on ne voyait pas dans le cinéma à l'époque et la France des années 60 qui est encore celle du 19e siècle.
C'est peut-être ça qui touche le plus les spectateurs jeunes de l'époque. C'est-à-dire d'un seul coup la France de l'après-guerre, dont chez leurs parents il y a encore des vieux meubles, il y a des trucs comme ça, d'un seul coup ils voient chez Godard qu'on peut peindre sa chambre en blanc et ça suffit, c'est-à-dire ils découvrent une façon de vivre par exemple l'espace de l'appartement et ça va agir sur la société, c'est pas juste une influence esthétique, c'est-à-dire Godard a agi sur une génération qui a pris des leçons de la façon dont on pouvait vivre dans ses films et dont on pouvait bouger, puisqu'effectivement la grande révolution de Godard, c'est peut-être les corps d'acteurs, à ce moment-là. C'est-à-dire, par rapport au cinéma français d'avant, d'un seul coup, ça ne ressemble plus à rien de ce qui existait. Et évidemment, les jeunes de l'époque, immédiatement, ils s'identifient à ces corps-là, à la liberté, à la façon de parler, c'est-à-dire à tout ce que représentent ces corps. Godard l'amène, alors que dans le cinéma français, il n'y avait rien, à peu près rien d'équivalent à ce moment-là. Donc c'est clair que la révolution comme ça de Godard, elle n'est pas qu'esthétique. Elle est aussi de comportement, de façon de vivre, de façon de bouger et de parler. Donc c'est pour ça que c'est plus important que ce qu'on dit parfois en disant « il a révolutionné le cinéma ». Il n'a pas révolutionné que le cinéma. Il a aussi modifié la façon de vivre des jeunes de son époque.
Il y a une génération Godard. Par exemple, sur ce film « Une femme est une femme », il y a Eustache dans « La maman et la putain », Jean-Pierre Léo va faire son lit. Il dit à un moment, le cinéma, ça sert à ça, ça sert à faire son lit, ça sert à apprendre des choses. Et cette génération apprend des choses en voyant des films. Et cette scène, c'est celle où, dans Une femme est une femme, le personnage fait son lit, les bras en croix, en tombant sur le lit. Donc voilà, il y a une sorte d'apprentissage d'une génération à partir du cinéma de Godard.
Tout le monde en place? Groupe qui repose, Alfredo, Nausicaa.
Nausicaa, arrivé la grazie, svelte.
Svelte. Siamo noi sulla camera.
Svelte ragazzi, svelte. Allez, vite, vite.
Sveste, sveste, ragazze.
No, Ulisse, vado, no.
Ulisse, no, via, fai fuori dal campo.
Le clap.
Il check.
705 prima.
Elles vont se déshabiller?
Évidemment.
Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, craque, on voit leur cul.
Jerry, Joe Levine is calling at one from New York.
Why don't you come up to the villa with me and leave them here to talk?
Venez avec nous, madame. On les laisse discuter.
Non, je rentrerai à pied avec mon mari tout à l'heure.
She's going with her husband.
Oh, come on. You spend all day with him. Come on.
Monsieur Foucault, je dis que vous êtes toute la journée avec votre mari.
Paul.
You mind if your wife comes along with me?
Est-ce que ça vous ennuie que votre femme vienne avec nous?
Non, pas du tout. Vas-y, Camille. Vas-y. Vas-y, Camille. Vas-y. Moi, je vais rentrer à pied avec Monsieur Lang et vous parler de l'Odyssée.
Vous aurez évidemment reconnu un extrait du Mépris. Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Luc Godard, les années 60 avec Alain Bergala et Antoine Debecq. Alors c'est très compliqué de parler de ce film parce que c'est sans doute le plus rond, le plus connu aussi des films de Godard. Le plus légendaire, le plus mythique aussi est celui sur lequel entre ce qu'a raconté Godard, ce qui a été raconté à l'époque et la réalité de sa fabrication. Alors ça sera encore plus le cas pour Pierrot le Fou sans doute, mais où il y a beaucoup de différences. Sans doute, on entend par exemple cet extrait où Michel Piccoli parle de cette question de montrer les fesses des actrices. Ça fait penser évidemment à la deuxième scène du film, après le générique très célèbre du début, la fameuse séquence de « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ». Or, au moment où Piccoli prononce cette phrase, Godard ne sait pas encore que son distributeur américain va lui imposer de remettre un peu plus de Bardot dénudé, parce qu'au prix où on la paye, quand même, ne pas voir ses fesses, ça serait dommage, hein, Alain Bergala.
Oui. D'abord, par rapport, vous avez cité Pierrot le Fou, c'est-à-dire que, imaginons qu'on oublie la chronologie et qu'on montre à des jeunes spectateurs Pierrot le Fou et le Mépris. C'est évident que le Mépris est le film de la maturité. C'est un film adulte, c'est un film, c'est un objet, c'est une sculpture, alors que Pierrot le Fou est un film qui est cassé, qui part dans tous les sens, qui est très lyrique. On penserait que Pierrot le Fou est le film de la jeunesse et que Le Mépris est le film de la maturité. Or, il ne tourne pas dans l'ordre, en tout cas, il ne tourne pas dans cet ordre-là. Autre chose par rapport à ces deux films, c'est la Méditerranée, c'est-à-dire que Godard est un homme du Nord, mais vraiment. C'est-à-dire pour lui, le soleil, la plage et tout ça, c'est absolument
c'est le contraire. C'est ce qu'il faisait dire à Michel Subor dans Le Petit Soldat.
Voilà,
je n'aime que le soleil de la Bretagne.
Et il se trouve que les deux films qu'il fait au bord de la Méditerranée font partie des films les plus inspirés. C'est-à-dire que la rencontre avec l'altérité, elle a été très très productive en termes de création. Après, il est reparti évidemment dans le Nord, où il n'a jamais pu quitter le Nord et les bords du lac. Mais en tout cas, c'est quand même... Et Le Mépris est un film impossible à classer dans les films de Godard des années 60. C'est pour la première fois, il fait un objet. Il fait un objet pas cassé. Et parce que d'habitude, il a toujours la position au montage de le casser. Là, il ne le casse pas, il le laisse entier. Et c'est un film qui tient debout tout seul. C'est en même temps du temps, et c'est en même temps une sculpture immobile et qui ne bouge pas. Donc, c'est quand même presque contradictoire avec le cinéma des années 60 de Godard. Qu'à un moment, il fasse ce bel objet. C'est lié à la production, évidemment. C'est lié au fait qu'il est obligé, pour une fois, d'écrire des dialogues à cause des Américains qui vont le distribuer. Mais c'est pas que ça. Je pense qu'il a quand même eu envie, une fois dans sa vie, de faire un film entier et pas un film abîmé.
Et c'est un film qui est hanté aussi. Il y a des fausses pistes. On pourrait se dire que c'est Homer, on pourrait se dire que c'est Fritz Lang puisqu'il est dedans. Mais vous l'avez déjà cité tout à l'heure à propos du début d'À bout de souffle. C'est le voyage en Italie de Rossellini qui est revisité complètement, Antoine Debecq.
Oui, oui, c'est sûr que il y a ce côté Viva l'Italia, qui est chez Godard, qui va le travailler hein, toute sa vie, et ça va revenir dans l'histoire du cinéma et tout ça. Mais c'est vrai que là, il y a ce désir de Méditerranée, d'Italie, de presque de classicisme, on va dire, et qui montre comment Godard fabrique ses films. Il les fait vraiment souvent les uns contre les autres. Il sort à ce moment-là du film qui est le moins compris et peut-être le plus bricolé, qui est Les Carabiniers, hein, qui est un film où on reproche à Godard de façon véhémente et dans la presse de pas être un bon technicien, de faire une image moche. Et alors, à la fois il s'en défend, et puis il monte au créneau sur Les Carabiniers, et puis il y a cette idée, si vous pensez que je fais des images, moi je vais vous montrer ce que c'est de faire des belles images. Et c'est pareil pour Bardot, c'est-à-dire que effectivement la production lui dit oui c'est pas mal, mais on voudrait voir un peu plus de nudité de Bardot, on l'a payé pour ça. Et donc il va retourner effectivement plus tard avec Bardot cette scène devenue mythique où elle est allongée nue. Mais c'est sur ce même esprit, c'est-à-dire ah, vous voulez voir Bardot nu, vous allez la voir. Et il la donne comme ça, comme une nouvelle Ève, absolument nue, effectivement, et puis détaillant son corps comme elle le fait. Donc il y a cette manière de jouer de Godard et de provoquer, d'aller toujours à la fois là où on lui demande d'aller. Godard aime beaucoup les commandes.
Il respecte toujours les budgets, les temps de tournage.
Voilà. Et en même temps, il les fait évidemment à sa manière, c'est-à-dire en allant radicalement jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. Et puis toujours de manière un peu provocatrice, en lui disant vous voulez ça, vous allez avoir ça, mais encore plus, quoi. Et donc sur le mépris, il y a sûrement ce jeu du encore plus, encore plus beau, encore plus hollywoodien, qui joue avec en même temps le système Godard, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même en grande partie improvisé au jour le jour, hein, et avec ce génie de la trouvaille, du hasard, qui devient quelque chose de productif, d'inventer au jour le jour quelque chose à partir des contraintes du tournage.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je commence à sentir l'odeur de la mort.
Et tu la regrettes? Allez, dis-le!
Arrête, tu m'énerves! Non, l'odeur de la mort dans le paysage, les arbres, les visages de femmes, les autos.
Tu sais qu'on va être seulement emmerdé sans argent. On peut même pas aller jusqu'en Italie.
Y'a qu'à s'arrêter n'importe où. Y'aura qu'à s'arrêter n'importe où.
Mais qu'est-ce qu'on fera toute la journée? Non, il faut d'abord trouver mon frère. Il lui gagnera plein de fric. Et ensuite, on se trouvera un chouette hôtel chic et on régalera.
Vous voyez, elle pense qu'à rigoler.
À qui tu parles?
Au spectateur.
Tu vois, je te l'avais dit. Je le regrette déjà. Tu es fou d'avoir fait ça.
Non, je suis amoureux.
C'est la même chose. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais tomber amoureuse. Je trouve ça dégoûtant.
Allez, dis pas ça. Allez, dis pas ça. Il y a 2 minutes, je voyais la mort partout, maintenant c'est le contraire. Regarde. La mer, les vagues, le ciel. Ah, la vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle. Tout à coup, je me sens libre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Regarde. À droite, à gauche, à gauche, à droite.
Oh, le petit con, il roule sur une ligne droite. Il est parfait de la suivre jusqu'au bout.
Quoi? Regarde.
Et voilà comment, par esprit de contradiction, on jette une voiture dans la mer. C'est évidemment Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard en 1965. Pierrot le Fou, il y a un dossier de presse à l'époque. Et dans ce dossier de presse, Jean-Luc Godard écrit que ce film, c'est un petit soldat qui découvre avec mépris qu'il faut vivre sa vie, qu'une femme est une femme et que dans un monde nouveau, il faut faire bande à part pour ne pas se retrouver à bout de souffle. Manière de dire que c'est le film qui récapitule toute la première partie de la filmographie de Godard. Alain Bergalin.
C'est clair, c'est la fin
du
film
Somme.
C'est ce film Somme, et c'est un film où il brûle tout. Tout ce qu'il a inventé, comme ça, film par film, il y a tout et il brûle tout. En même temps, d'ailleurs, ça finit par une explosion et un feu. À l'époque, la grande question, c'était qu'est-ce qu'il peut faire après? C'est-à-dire quelqu'un qui a fait le nombre incroyable de films qu'il a fait et qui d'un seul coup fait exploser son cinéma. Comment il va repartir après ça? Ce film, à l'époque, était difficile à recevoir. Je dis ça parce que c'est valable pour beaucoup de films de Godard, c'est-à-dire aujourd'hui, Pierre le Fou, moi je l'ai montré à des lycéens, c'est normal, enfin, d'une certaine façon, c'est devenu un film normal à l'époque, même pour les spectateurs cinéphiles et tout ça, ça apparaissait comme un film difficile.
Enfin, c'est souvent le rapport que tous les contemporains de Godard ont eu. Moi, je me souviens découvrant Godard dans les années 80, le Godard contemporain, et je me dis, tiens, c'est vraiment celui qui a fait les films des années 60, avec toujours ce sentiment que peut-être dans 20 ans, je comprendrai mieux.
Bon, il y en a qu'on comprend mieux, il y en a toujours pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on comprend mieux assez vite. Pour moi, c'est important, c'est le taux de si vous voulez, de je sais pas comment dire, le fait que certains films, on les comprend au bout de 3 projections, et d'autres, il faut 10 projections pour pas les comprendre, mais les assimiler et ne plus avoir de problème avec les films. Et le dernier, là, moi, j'y suis toujours pas.
mais ce qui doit perturber quand même des spectateurs contemporains, c'est qu'il y a un sentiment qu'on pourrait avoir de désinvolture de Godard. C'est-à-dire que certaines scènes, notamment la grande scène d'action à la fin, a l'air complètement bâclée. Et avec ce sentiment, mais qui est assez formidable, enfin cette façon qu'a Godard d'inclure, notamment par les voix off, des parties entières du scénario qui vont être dites par, alors ici c'est par Anna Karina ou... Jean-Paul Belmondo, mais c'était le cas dès le début, hein, on en trouve des traces, dès Une femme est une femme, par exemple, en se disant, puisque c'est écrit, que je l'ai déjà fait, et que ça ne sert qu'à raconter une histoire, pourquoi le filmer, Antoine Debecq?
Oui, cette désinvolture, elle est là, quand on a l'extrait d'À bout de souffle, allez vous faire foutre. Voilà, c'est si vous comprenez pas, si vous suivez pas, allez vous faire foutre. Et donc ça, c'est à la fois la force de provocation de Godard, c'est-à-dire voilà, je peux tout me permettre et puis c'est moi qui décide et en même temps, je pense que c'est aussi l'adhésion parce que on est dans un moment où on a envie d'entendre des choses comme ça. Je pense que cette génération qui a grandi avec Godard et c'est pour ça par exemple que Pierrot le Fou va être un film qui est à la fois difficile et en même temps qui va être un film générationnel, c'est-à-dire que vraiment une génération qui ont 20 ans en 65 vont grandir avec le cinéma de Godard et puis on peut le dire comme ça, 3 ans plus tard faire la révolution, en tout cas essayer de faire la révolution comme Godard lui-même. Donc il y a cette et je pense que une sorte d'addiction à Godard comme ça fonctionne sur ce que Godard justement peut se permettre. Et qu'il est seul à pouvoir se permettre et pouvoir dire au milieu d'un film allez vous faire foutre, il y a que Godard qui peut se permettre ça dans les années 60 et il le refait à chaque film d'une manière ou d'une autre, mais c'est toujours cette désinvolture là qui a cette force de provocation, parce que ce allez vous faire foutre c'est adressé au spectateur, mais c'est adressé aussi à tout, au système, au cinéma, à la politique. Je veux dire, Pierrot le Fou, c'est un film où pour une fois, par exemple, De Gaulle en prend plein la figure, quoi. Hein, donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui, ce allez vous faire foutre, il est adressé à tout le monde, quoi.
Salut.
Salut.
Ça marche bien hein, au Vietnam.
Ah oui.
Vous tuez beaucoup de communistes, hein.
Oh oui, oui.
Et puis vous faites bien tout brûler au napalm, tout un pays. Fantastique.
Oui.
Les femmes et les enfants, vous les massacrez tous.
Oh oui.
Ben bravo.
US go home!
US go home!
US go home!
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 Paris, 25 novembre 1965. J'ai un manteau bleu uni. Elisabeth bordée de blanc. J'habite chez elle, en face du métro aérien. L'air est froid. Nous avons déjeuné au snack de la rue Marbeuf. Paul m'a embrassée pour la deuxième fois. Elisabeth est un peu jalouse. Je m'en fous. Mon premier 45 tours sera après-demain chez RCA. Pourvu qu'il marche. Alors je m'achèterai une Maurice Cooper. J'aime bien que Paul soit amoureux de moi. Éventuellement, baiser avec lui. mais il ne faut pas qu'il devienne emmerdeur.
Paris, 25 novembre 1965, c'est le jour même où a été tournée cette scène, hein, on l'imagine, cette façon de Godard de marquer aussi le temps. Alors ceux qui ont gardé leur oreille d'enfant auront peut-être connu dans cette voix celle qui n'était pas encore la cousine de Bécassine, mais qui était une chanteuse yéyé débutante, c'est Chantal Goya. Et puis bien sûr, celui qui fait de l'agite propre contre la guerre du Vietnam, voilà que le Vietnam arrive. Même, il y a une scène déjà dans Pierrot le Fou qui évoque cette guerre, c'est bien sûr Jean-Pierre Léo, emprunté à François Truffaut pour la première fois, même s'il avait été assistant réalisateur sur Pierrot le Fou. On le voit dans un coin de l'image à un moment dans une scène de cinéma. Antoine Debecq parlait de films générationnels, sauf que Godard vieillit. Et il y a une jeunesse, qui est la jeunesse yéyé précisément, qui n'est plus la sienne. Et il va essayer de trouver des moyens pour la représenter à l'écran, pour la filmer.
Jusqu'à présent, il a filmé les gens de sa génération, à égalité. Enfin, comme ça, et il s'aperçoit à ce moment-là, justement après Pierrot le Fou, qu'il y a une nouvelle jeunesse, qui n'est plus celle de l'après-guerre, à laquelle il ne comprend pas grand-chose. Et bon, l'idée est très belle, c'est de, s'il avait filmé que la génération yéyé, il y aurait pu y avoir un peu de mépris, pas de mépris, mais un tout petit peu comme ça, de trop de recul. Et l'idée de génie, c'est de prendre Jean-Pierre Léo, qui a l'âge de la génération des yéyés, mais qui lui a aussi la maturité de sa génération. Lui, il est passé par Truffaut, il est passé, voilà. Et ce qui fait que c'est son représentant dans le film, c'est Léo. Et Léo sert un peu à provoquer les jeunes, etc. C'est-à-dire, je me demande toujours ce qu'aurait été le film sans le personnage de Jean-Pierre Léo. Ça serait sans doute pas une bonne approche de la nouvelle génération. Parce qu'il y a quand même un peu de condescendance. Enfin, il y a un tout petit peu d'incompréhension, en tout cas, certainement, de qu'est-ce que c'est ces jeunes écervelés, incultes, que sont les yéyés. Même s'ils ne se trompent pas. C'est-à-dire tout de suite, il voit qu'ils vont être quand même, comme toujours, hein, Godard repère tout de suite, à un moment donné, qui va être bon. Après, il va voir que l'Erita Mitsuko, c'est eux qui sont importants à ce moment-là. Et il le découvre en général avant tout le monde. Et parce que là, elle est tout à fait débutante, hein, Chantal Goya.
Comme Marlène Jobert aussi. Ouais, dans
Marlène Jobert, c'est-à-dire là, par rapport à ça, et c'est pas parce qu'il fait des films qu'ils vont devenir après connus. Il a repéré tout de suite qu'ils allaient devenir connus et que finalement, dans leur milieu et dans leur recherche, ils étaient bons.
Et on les découvre d'autant plus que ce film mélange de manière assez indécidable, côté fiction, très écrite encore, et des dimensions complètement documentaires. C'est devenu une tarte à la crème de dire que tous les films sont des documentaires sur leur tournage, sur les acteurs, etc. Mais ici, on a des longues scènes qui sont très belles, et Chantal Goya est très troublante, très, très touchante dans ses rires gênés à certaines questions, des parties d'interrogatoires quasiment, qui ont été faites par Godard, mais il s'est retranché au montage. On a l'impression d'un dialogue entre personnages, alors que c'est vraiment une scène d'entretien.
Absolument, et
masculin féminin,
c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de sociologie critique, parce que Godard, voilà, n'utilise pas de façon innocente, évidemment, les outils, mais c'est les outils sociologiques. On est à un moment d'un grand développement des enquêtes d'opinion, et notamment des enquêtes d'opinion faites par le cinéma. Il y a eu beaucoup de films, évidemment, Jean Rouch et Edgar Morin avec Chronique d'un été, Chris Marker a utilisé ça aussi dans Le Joli Mai. Donc voilà, et Godard réutilise ces techniques qui sont propres à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'activisme sociologique du cinéma, hein, d'enquête sur la jeunesse notamment, avec cette question qui revient toujours à ce moment-là, êtes-vous heureux? Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Et Godard va utiliser ça de façon à la fois extrêmement critique et extrêmement un peu perverse aussi, hein. C'est-à-dire que il veut faire advenir à l'écran, à travers ses outils de l'enquête, quelque chose qui est à la fois une manière d'épingler cette nouvelle génération et en même temps de la faire exister de façon un petit peu décalée, un petit peu intime aussi. Bon, il y a dans Masculin Féminin, il y a cette scène absolument extraordinaire de l'interrogatoire de la mademoiselle 19 ans, hein, voilà, Elsa Leroy, hein,
qui dans le bureau de Philippe Aki, nouveau propriétaire des Cahiers du Cinéma.
Godard fait donc parler cette. Mais ce qui est très réussi, c'est qu'il. Ce n'est pas lui qui l'a fait parler, c'est Jean-Pierre Léo qui a cette fonction dans le film. Son métier, c'est de mener des enquêtes pour l'IFOP, hein, et il l'a fait parler. Et en même temps, comme le disait Alain, c'est la voix de Godard, parce que à ce moment-là, Godard utilise quelque chose qui est très important, c'est l'oreillette. C'est-à-dire qu'il parle directement avec ses acteurs dans l'oreille, grâce à des oreillettes qu'on ne voit pas. Et donc, c'est Godard qui pose les questions à cette jeune fille par l'intermédiaire de Léo, qui reçoit les questions de Godard et qui peut les poser ensuite. Donc voilà, c'est tout un dispositif qui existe, mais qui est comme perverti, changé, transformé par Godard pour effectivement à la fois un rendu qui est assez phénoménal au sens du phénomène d'une nouvelle génération, et en même temps aussi quelque chose qui est voilà qui va vers quelque chose de très intime, très singulier et en même temps très critique. C'est cette position de Godard qui est tout à fait particulière de ce moment-là et qui l'engage vers un cinéma qui est moins documentaire, je dirais, que expérimental. Il y a cette idée de faire des expériences avec la société de son temps.
Elle, c'est Marina Vladimir. Elle est actrice. Elle porte un chandail bleu nuit avec deux raies jaunes. Elle est d'origine russe. Ses cheveux sont châtain foncé ou brun clair. Je ne sais pas exactement.
Oui. Parler comme des citations de vérité. C'est le père Brecht qui disait ça. Que les acteurs doivent citer.
Maintenant, elle tourne la tête à droite. Mais ça n'a pas d'importance. Elle, c'est Juliette Janson. Elle habite ici. Elle porte un chandail bleu nuit avec deux raies jaunes. Ses cheveux sont châtain foncé ou alors brun clair. Je ne sais pas exactement. Elle est d'origine russe.
Il y a 2 ans à la Martinique. Exactement comme dans un roman de Simenon. Non, je ne sais pas lequel. Oui, touriste de banane, c'est ça. Il faut que je me débrouille. Robert, je crois, à 110 000 francs par mois.
Maintenant, elle a tourné la tête à gauche. Mais ça n'a pas d'importance.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Luc Godard, celui des années 60 avec Alain Bergala et Antoine Debecq. Dernier film à notre programme, dans ce premier chapitre de notre série Godard, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. C'est le début du film, présentation à la fois de l'actrice et du personnage par Godard. Et voilà qu'arrive la voix off de Godard. Alors ici elle est susurrée, c'est pas encore la voix off sépulcrale des histoires du cinéma. Mais à le voir aujourd'hui, je ne sais pas comment le film a été perçu à l'époque, Alain Bergala, mais on voit arriver le Godard presque contemporain, c'est-à-dire le Godard essai, le Godard qui se met en avant aussi comme personnage de ce film, et le Godard, il le dira dès l'époque, qui se montre en train de penser, en train d'imaginer son film et en train de montrer ses doutes.
Tout à fait. Par rapport à ce que je disais au début sur À bout de souffle, c'est le contraire. C'est-à-dire là, Godard a un projet difficile, presque théorique, et il va chercher les outils pour le mener à bien. Et ce projet, c'est observer les transformations de la banlieue parisienne, les grandes constructions, etc., à travers quelqu'un, un personnage ou deux. Donc l'idée, c'est d'être dans le très grand et le tout petit et le singulier. Et ces raccords, évidemment, au cinéma, c'est passionnant, mais c'est pas facile à faire. Et dans ce film, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure, il y a des morceaux qui sont véritablement de l'expérimentation. Bon, il y a le célèbre passage de la tasse de café qui devient d'un seul coup un morceau fantastique, métaphysique.
Cosmologique, on a l'impression de voir tourner une galaxie dans l'espace.
Alors que c'est juste un type qui touille son café avec sa cuillère, et Godard devient fou, il dit à Coutard, plus près, et d'un seul coup on a cette scène-là. Et puis il y a la scène alors qui est absolument incroyable du poste à essence. Car Marina Vladi vient voir son mari, où là Godard tourne, je sais pas, genre 60 plans en 3 heures. Et évidemment, il les tourne, je pense, à ce moment-là, dans l'idée de les enchaîner. Et puis, d'un seul coup, en cours de tournage, il se dit « Non, je vais faire autre chose ». Et il fait une séquence fondamentale dans l'œuvre de Godard, qui est une séquence faite sur les sensations, et avec des touches de couleurs, des mots, etc. Et là, c'est clairement délimité. C'est-à-dire, on voit bien qu'au montage, Godard se dit « Là, j'expérimente quelque chose que je n'ai jamais fait, et peut-être que personne n'a jamais fait comme je le fais à ce moment-là ». Donc c'est un film à la fois théorique, enfin théorique au sens, c'est un projet comme ça, théorique et difficile, et en même temps, c'est un film sur les sensations. C'est un film où il est tout à fait en phase avec, au moment du tournage, avec les sensations que lui procure le réel, enfin la réalité au milieu de laquelle il tourne. C'était un film difficile à l'époque. Je veux dire, les critiques se sont réfugiés dans le côté film sur les transformations parisiennes, sur la prostitution occasionnelle. Évidemment, c'était pas suffisant pour comprendre et pour parler du film.
Oh mes amis, ne vous moquez pas de moi, et souvenez-vous de cette soirée-là, car je vous demande aujourd'hui de m'aider, car je vous le demande, le cœur serré. Comment le revoir?
Comment le revoir?
Et comment savoir?
Et comment savoir?
A-t-il oublié, se souvient-il de moi? A-t-il espéré revenir près de moi? J'aurais trop de peine s'il fallait l'oublier. Comment le revoir?
Comment le revoir?
Et comment savoir?
Et comment savoir?
Personne ne sait qui l'avait invité. Personne ne sait comment il s'appelait. Mais moi je sais bien qu'il m'a parlé longtemps. Je sais qu'il m'a regardé très tendrement. Comment le revoir?
Comment le revoir, chanté Chantal Goya en 1966 dans la bande originale de Masculin Féminin. Comment le revoir, Godard? Eh bien, par exemple, en vous procurant les très belles éditions en version restaurée de Masculin Féminin et de Deux ou trois choses que je sais d'elle. C'est en Blu-ray et DVD chez Potemkin avec des présentations de vous, Alain Bergala et de Nicole Brenez. Vous pouvez aussi aller du 4 au 20 octobre au théâtre Nander Amandier, qui a invité Jean-Luc Godard à y déployer son livre d'images dans les espaces du théâtre. On pourra aussi y revoir ces films étranges, beaux, mystérieux des années 2000, Éloge de l'amour, Notre musique, Film socialisme et Adieu au langage, le tout pour attendre la grande rétrospective intégrale de ces films et de ceux d'Anne-Marie Miéville à partir de janvier à la Cinémathèque française. Nous y reviendrons. Revoir Godard, c'est aussi lire les livres de nos invités, que je remercie chaleureusement, le très précieux Godard au travail les années 60, mais aussi Nul mieux que Godard, par exemple d'Alain Bergala, c'est aux éditions des Cahiers du cinéma, et puis la tout aussi indispensable et très volumineuse biographie de l'impossible Monsieur Godard par Antoine Debecq, c'est chez Grasset. On signale encore tout récemment paru chez L'Harmattan, Le cinématographe selon Godard de Frédéric Ardoin, et puis pour en savoir plus aussi sur la vie très romanesque, très tragique de Jean Seberg, la Patricia d'About de Souffle, Kill Jean, comment ils ont tué Jean Seberg, d'Alain Mamoumani et Antoine Lassaigne chez Alary Édition. En salle depuis mercredi dernier, je vous signale la réédition du chef-d'œuvre du film noir qui est Détour d'Edgar G. Ulmer, et puis un inédit de Kelly Reichardt, la cinéaste américaine très farouchement indépendante. C'est son premier film, River of Grass. On me pardonnera, j'espère aussi, en ces temps très puritains, d'annoncer aussi la sortie en DVD de trois grands films de Jean-Claude Brissot, Un jeu brutal, De bruit et de fureur et Noce blanche, c'est chez Carlotta, ainsi que le début hier du festival de Deauville, très critiqué pour avoir inauguré sa 45e édition par le nouveau et bon film du banni des États-Unis qu'est Woody Allen, Un jour de pluie à New York. C'est le seul festival dans le monde à avoir présenté ce film. Woody Allen qui sera d'ailleurs notre invité exceptionnel la semaine prochaine dans Plan Large. La polémique à propos de Deauville a sans doute oublié que le Festival du film américain propose cette année une sélection strictement paritaire en compétition, ce qui n'est pas le cas de tous les festivals.
Au nom du peuple français, en ce 9 septembre 1899, le Conseil de guerre permanent de la 10e région de corps d'armée a déclaré le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, à la majorité de 5 voix contre 2, coupable de haute trahison. Toutefois, à la même majorité sont votées des circonstances atténuantes. En conséquence de quoi, la Cour commue la sentence à 10 ans d'emprisonnement.
La 76e Mostra de Venise se termine aujourd'hui. On en connaîtra le palmarès ce soir. Le Lion d'Or annoncé fera-t-il oublier toutes les polémiques qui ont marqué le début du festival? Je le rappelle, dès la conférence de presse, la présidente du jury, l'Argentine Lucrecia Martel, s'en était pris au directeur artistique Alberto Barbera. En cause, la très faible présence féminine, seulement 2 films en compétition, ceux de la saoudienne Haifa Al-Mansour et de l'australienne Shannon Murphy. Sur 21 au total. La présence parmi ceux-ci du J'accuse, dont on vient d'entendre un extrait d'un Roman Polanski qui a préféré ne pas se rendre sur la lagune de crainte de s'y faire arrêter et extrader aux États-Unis. Et puis la déclaration de la même Lucrecia Martel, comme quoi elle ne souhaitait pas célébrer le cinéaste condamné pour détournement de mineurs et toujours accusé de viol par les tribunaux californiens, avant qu'elle ne se défende de toute partialité à l'encontre du film dans un communiqué. Il faut dire que le distributeur italien avait carrément menacé de retirer le film de la compétition. Et puis on n'oublie pas non plus la bronca des exploitants de salles de cinéma en Italie comme en France contre la sélection, toujours en compétition, de 2 films Netflix, ceux des Américains Steven Soderbergh et de Noah Baumbach. Netflix qui avait, on se le rappelle, remporté l'an dernier le Lion d'Or avec le magnifique Roma d'Alfonso Cuarón. Alors le cinéma dans tout ça, la sélection affichait du lourd, d'Hirokazu Koreeda en ouverture avec son premier film français, Catherine Deneuve et Juliette Binoche en tête d'affiche. Il y a aussi James Gray, Atom Egoyan, Olivier Assayas et Robert Guédiguian côté français, Ciro Guerra et Pablo Larraín pour les Sud-Américains, et puis les toujours très intéressants cinéastes italiens Pietro Macello, Franco Maresco et Mario Martone. Michel Simon, vous êtes au téléphone avec nous de Venise. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur dans les salles du Lido cette année?
Oui, c'était une très bonne sélection d'après la plupart des observateurs. Enfin, c'est une des meilleures et Venise se confirme comme le deuxième grand festival après Cannes par la richesse. Il y avait quand même 13 pays représentés en compétition. Alors évidemment, il y a eu des attaques contre Barbera, surtout venues des Américains, alors qu'ils sont très bien servis puisqu'il y a beaucoup de films américains à Venise et il y a une succession de vedettes comme à la grande époque de Venise, des Brad Pitt, des Joaquin Phoenix, des Adam Ryder, des David Thewlis, des Catherine Deneuve, des Scarlett Johansson, des Meryl Streep, des Gong Li. Enfin, c'est tous les soirs une sorte de fiesta people. Mais Barbera se défend tout simplement en disant qu'il est totalement indépendant et que quand il regarde un film, il ne pense pas que le metteur en scène est gay ou que c'est une femme ou que c'est un noir, mais il regarde la qualité des films. Évidemment, aujourd'hui, ça choque beaucoup cette indépendance d'esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? On ne sait pas, puisque le film Polanski est à la fois le mieux reçu de tous les films en compétition, il est le favori de la critique italienne, il est le deuxième film préféré des étrangers, donc c'est vraiment un film plébiscité. Un homme de 86 ans qui fait un film d'une force et d'une maîtrise absolue, c'est le grand style classique de Polanski. Mais il y a d'autres candidats, alors il y a évidemment le film de James Gray, Ad Astra, qui a été diversement accueilli, mais qui est un film de science-fiction mieux reçu que 2001, Odyssée de l'espace, quand 2001 a été présenté pour la première fois, mais néanmoins très controversé. Il y a un film de Soderbergh, évidemment un film Netflix, The Laundromat, brillant exercice sur les Panama Papers, où Soderbergh se réclame un peu de Docteur Folamour, c'est-à-dire de traiter un sujet gravissime sous la forme d'une comédie brillante. Mais c'est un film Netflix, évidemment, comme celui de Noah Baumbach, Marriage Story, l'histoire d'un mariage avec Scarlett Johansson et Adam Ryder, qui est l'histoire effectivement d'un divorce plutôt que d'un mariage, brillamment réalisé. Mais là encore, ce sont les 2 films qui sont parmi les 5 préférés de la presse. Donc comment écarter ces films Netflix? Ça sera le problème du jury. Il y avait d'autres révélations, par exemple, peut-être pas une révélation, mais le retour en forme, peut-être pas sa plus grande forme, mais le retour en forme de Atom Egoyan, Guest of Honor, un film labyrinthique et étouffant, comme Egoyan l'aimait à sa grande période. Il y avait également le nouveau film de Roy Anderson, qui avait fait le Lion d'Or, qui avait eu le Lion d'Or avec un pigeon sur la branche, réfléchi sur l'existence. Là, c'est un film qui s'appelle Sur l'infini, un film magnifique, très bien, sauf que l'humour n'est pas aussi présent que dans ses précédents films. Ce sont des compositions visuelles extrêmement précises à la Edward Hopper. On peut dire que Roy Anderson est le plus grand peintre au cinéma.
Alors, vous ne nous parlez pas, Michel Simon, de la sélection française qu'ont donné les films d'Olivier Assayas, film américano-cubain, Wasp Network, et le film de Robert Guédiguian?
Alors, bien sûr, j'ai parlé du cinéma français, puisque le film de Polanski est un film français. D'ailleurs, c'est pas l'affaire Dreyfus en anglais, comme on aurait pu le craindre, pour une grosse production, mais c'est le respect de la langue française. Le film d'Assayas est une grosse déception. C'est le film le moins bien reçu de tous les films en compétition. Et son défaut, c'est essentiellement un scénario. C'est-à-dire, c'est un film sur, effectivement, l'infiltration de Cubains à Miami, qui infiltre les réseaux pro-anticastriste et qui travaille pour Castro. C'est pas le reproche que l'on peut faire au film. Ce qu'on veut refaire au film comme reproche, c'est que il aurait dû être une sorte de Carlos, c'est-à-dire une série de 6 heures. Et Olivier Assayas a voulu faire un film de 2 heures, extrêmement condensé, où on se perd beaucoup dans le scénario. Les qualités du cinéaste ne sont pas en cause, mais c'est vraiment curieusement pour un homme qui est un littéraire, qui est un écrivain, c'est plutôt au niveau de l'écriture. Quant au film de Guédiguian, qui a été présenté il y a 2 jours, c'est un film dans la tradition de Guédiguian, avec sa troupe d'acteurs, comme au théâtre, qui sont tous remarquables. Ce sont des gens modestes, comme d'habitude chez Guédiguian. Ça se passe à Marseille. Et puis, c'est l'histoire qui se développe pour devenir une tragédie. Et la meilleure partie du film, c'est incontestablement quand Guédiguian aborde le ton extrêmement grave, extrêmement prenant qu'il sait donner à ses films.
Et puis enfin, Michel Simon, en 2 mots, Venise, c'est aussi là où on observe l'état du cinéma italien. Alors qu'est-ce que ça a donné cette année, la sélection italienne?
Alors la sélection italienne était meilleure que d'habitude. Souvent, Barbera, pour des raisons diplomatiques, est obligé de prendre 3 films italiens, comme les Américains ou comme les Français. Alors que là, on a vu en particulier un film qui va bientôt sortir à Paris, qui est Martin Eden. L'adaptation de Jack London, qui est une remarquable recréation. Alors ça se passe à Naples, c'est une infidélité au romancier, mais c'est l'histoire d'un individualiste qui est en même temps socialiste, un film complexe idéologiquement, joué merveilleusement par un comédien, Luca Marinelli, qui pourrait avoir un prix d'interprétation s'il n'y avait pas tous ses concurrents américains brillants. Donc c'est un film très réussi, et le film de Mario Martonet est un film théâtral, puisqu'il est adapté d'une pièce d'Eduardo de Filippo, une pièce là aussi napolitaine, étant vedette dans la sélection italienne. C'est un film sur la mafia, d'ailleurs il y en a également un 3e film italien qui parlait également de la mafia, qui est toujours un sujet central, puisqu'on a vu le Bellocchio à Cannes, qui est un chef-d'œuvre. Donc la sélection italienne était bonne, et alors je voudrais aussi évoquer un des films préférés de la presse, pas de moi. J'ai trouvé le film extrêmement violent, tonitruant, très branché, qui est le Joker de Todd Phillips, mais qui peut permettre à Joaquin Phoenix d'avoir un prix d'interprétation. C'est le film qui a été plébiscité et par le public et par la critique, même si je ne partage pas cet enthousiasme général. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Merci Michel Simon. On se quitte sur la reprise par Jimmy Durante du célèbre Smile des temps modernes de Chaplin. C'est précisément dans la bande originale du Joker de Todd Phillips. Oui, le réalisateur des Very Bad Trip, Le Lion d'Or et les autres prix de la Mostra. Ce sera ce soir. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, je l'ai dit tout à l'heure, entretien exceptionnel avec Woody Allen à l'occasion de la sortie de son nouveau film Un jour de pluie à New York. Entretien hors polémique, on parlera de cinéma. Et Anne Tebbin viendra aussi nous chanter les vertus de Nicolas Rey, objet ces temps-ci d'une faramineuse rétrospective à la Cinémathèque française. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard. In the sky, you get by.
you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness,
smile,
hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
You'll find that life's worthwhile
if you just smile.